bienvenue à tous. Alors, je rappelle que ce séminaire est à la fois le séminaire du Collège de France et aussi le séminaire que je dois à l'École des hautes études en sciences sociales, qu'il durera jusqu'au 17 janvier inclus, puisque nous avons commencé par rapport aux années précédentes un peu plus tard. Il y aura plusieurs séances en janvier. Il y a un lien, évidemment, entre le thème que j'ai choisi pour le cours du matin, écrire et publier dans l'Europe moderne, et puis le thème de l'après-midi, histoire textuelle connectée, et qu'il pourrait y avoir des va-et-vient, mais enfin chacune de ces séances ou activités a son autonomie. Et que cette année, je partirai souvent, peut-être pas toujours, mais assez souvent, d'une lecture d'un ouvrage récent, différentes langues, anglais, espagnol ou français, pour essayer de focaliser l'attention sur différents acteurs ou différentes pratiques dans le processus de publication des textes. Par exemple, le correcteur, le lecteur ou aujourd'hui le copiste. Et ça serait donc à partir d'une bibliographie récente pour présenter ces travaux. Certains, je suis sûr que vous les connaîtrez. D'autres, peut-être, circulent moins facilement parce que pour leur langue ou pour leur édition. Mais donc, on pourrait s'appuyer sur ces travaux récents pour, en quelque sorte, parcourir une bibliographie des dernières années autour de ces questions. Alors aujourd'hui, le thème, ce serait les analyses autour des copistes et l'occasion, la publication d'un livre en français de Luciano Canfora qui a pour titre « Le copiste comme auteur ». Et c'est un livre qui est publié par les éditions Anacarsis, qui sont des éditions extrêmement intéressantes, publiées à Toulouse et qui ont toute une partie de leur politique éditoriale liée à la philologie. Et une autre, d'ailleurs, partie liée au livre sur l'Amérique. Alors, pour commencer, je partirai d'une citation de Gibbon dans l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, « The Decline and Fall of the Roman Empire », que Canfora cite au début de son chapitre 9. C'est un passage dans le texte de Edward Gibbon, publié en 1776, dans lequel il réfléchit sur les disparitions du patrimoine textuel, et en particulier sa réflexion vise à réfuter une tradition, la tradition selon laquelle la bibliothèque d'Alexandrie, sa destruction, doivent être imputés à la prise de la ville par les Arabes en 640 et à la décision du calife Omar. Et pour réfuter cet argument, Gibbon, d'une part, attribue cette destruction à d'autres acteurs, peut-être César auparavant, ou bien les chrétiens plus tard, mais aussi d'une façon plus générale à ce qu'il désigne comme les dégâts de l'ignorance. Et il se livre à une réflexion dans laquelle il regrette évidemment la destruction, la disparition de ce qu'il appelle « valuable libraries », des bibliothèques de valeur, qui ont été liées, ces destructions, avec la chute, la ruine de l'Empire romain, « the decline and fall », mais aussi aux calamités de la guerre, aux dégâts de l'ignorance, et finalement aussi, à sa grande surprise, comme il le dit, peut-être que ces pertes sont moins importantes qu'on a voulu le dire, et que c'est la conservation des trésors plus que l'étendue des pertes qui attire son attention. Et de là, ce que je vais lire dans la traduction française que cite le traducteur de Canfora, un grand nombre de faits, c'est Edward Gibbon qui parle en 1776, un grand nombre de faits curieux et intéressants sont tombés dans l'oubli. Les ouvrages des trois grands historiens romains ne nous sont parvenus que mutilés. Et nous sommes privés d'une foule de morceaux agréables de la poésie lyrique, iambique et dramatique des Grecs. Mais il faut se réjouir de ce que les événements et les ravages du temps ont épargné les livres classiques auxquels le suffrage de l'Antiquité a décerné la première place du génie et de la gloire. Nos maîtres dans la connaissance de l'Antiquité, dont les œuvres nous sont parvenues, avaient lu et comparé les ouvrages de leurs prédécesseurs. Et il n'y a pas lieu de croire qu'une vérité importante ou une découverte utile dans les arts ou dans la nature se soit perdue pour nous. Et dans le texte anglais, il y a des notes qui désignent quels seraient ces ouvrages classiques qui, en quelque sorte, sont des bibliothèques de bibliothèques, puisque, à suivre Gibbon, ils auraient incorporé les ouvrages de leurs prédécesseurs, et dans la note, il cite ainsi Galien, Pline, Aristote, qui seraient donc ces dépôts de textes perdus, mais qui sont du coup accessibles à travers le fait qu'ils les aient commentés, glosés ou cités. Et c'est à partir de cette vision qu'il qualifie d'une idée à la Pangloss, c'est-à-dire où tout est toujours pour le mieux, qu'il réfute, parce que pour Canfora, les pertes sont importantes et plus importantes que ne le pense Gibbon dans son raisonnement. C'est à partir de là que développe Luciano Canfora une analyse de la transmission de la tradition qui est faite de pertes, de mutilations, de contamination, et de là aussi l'objet plus précis du livre, c'est-à-dire le rôle des copistes et dans la conservation et éventuellement dans la disparition. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé utile de commencer avec la figure du copiste à travers le livre de Canfora, même si évidemment il porte sur l'Antiquité et non pas sur l'époque moderne qui est l'objet du cours ou de mes propres travaux. Mais pour ceux qui étaient là ce matin, j'avais évoqué le rôle des copistes comme étant ceux qui établissent un premier état lisible d'une œuvre d'auteur pour que celle-ci soit soumise au jugement des censeurs et qu'ensuite elle soit utilisée dans l'atelier comme copie d'imprimerie. Et donc il y a là un rôle fondamental des copistes dans le processus de l'édition imprimée lui-même. Mais ce que je n'ai pas dit ce matin, c'est aussi le fait qu'à l'âge de l'imprimé survivent des publications manuscrites et que, évidemment, ces publications manuscrites ne sont multipliées que par l'intervention de copistes. Et donc, on a, à côté du domaine dominant de l'édition imprimée, la survivance de ce que les auteurs anglais ou américains ont appelé « scribal publication », la publication manuscrite qui s'empare de genre, par exemple, la poésie, certaines formes de polémiques politiques, les partitions de musique, et qui correspond à toute une série de critiques par rapport à la circulation imprimée, puisque dans le cas de la publication manuscrite, le milieu des lecteurs et le monde de l'auteur sont plus proches que dans le cas d'une publication imprimée où les livres sont adressés à des lecteurs anonymes que l'auteur ne peut connaître. D'autre part, la publication manuscrite permet une sorte d'écriture à plusieurs mains ou en plusieurs temps, puisque le livre manuscrit peut toujours être poursuivi, prolongé. C'est un thème qu'a étudié de très près un auteur qu'on rencontrera, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, Fernando Bausa, dans un livre qui a pour titre « Corre manuscrito », le manuscrit court. Alors donc, il y a une importance des copistes à l'époque moderne, mais les copistes de Canfora, évidemment, sont les copistes de l'Antiquité. Et le lien entre ce point de départ avec Edward Gibbon et la réflexion ou le travail de Canfora sur les copistes est lié à l'intérêt qu'il a toujours porté à la Bibliothèque d'Alexandrie. Un de ses livres les plus fameux, qui a été traduit en français, « La véritable histoire de la Bibliothèque d'Alexandrie », publié chez De Jonquière, et il a aussi collaboré sous forme d'article dans un volume de la collection Autrement, qui était voué à Alexandrie en général, et avec un chapitre sur la bibliothèque, ou encore dans un autre livre, aussi dirigé par Christian Jacob, Le pouvoir des bibliothèques, c'est un livre publié chez Albin Michel, dans lequel Canfora a écrit un essai, Les bibliothèques anciennes et l'histoire des textes. Mais cet intérêt ou passion de Canfora pour l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie et l'histoire de sa disparition était lié à un projet plus général, qui est une œuvre considérable fondée sur la philologie classique et essentiellement sur des travaux philologiques qui portent sur Thucydide et sur Démosthène. Et l'autre aspect intéressant, avant d'entrer plus avant dans le livre, sur le copiste et le commenté, c'est le fait que Canfora, comme d'autres de nos collègues italiens tout à fait mobilisés par les études les plus classiques, par exemple les études philologiques, est aussi engagé dans la cité contemporaine. Il a été député au Parlement européen en 1999 sur la liste du Parti communiste italien, qui existait encore, et ensuite impliqué dans toute une série de polémiques ou de débats politiques. Un de ses livres fameux est un livre sur la démocratie, histoire d'une idéologie, publié en italien en 2005. Donc c'est une figure d'érudit engagé, un peu comme dans peut-être à la tradition française de la fin du XIXe siècle, les professeurs de l'école des Chartes engagés dans la controverse de l'affaire Dreyfus. Et donc, ce lien, un peu paradoxal ou étonnant par rapport à d'autres traditions, entre un engagement civique et un savoir philologique. Dans son œuvre, on trouverait, à côté donc, de ce que je dis, l'intérêt pour la bibliothèque d'Alexandrie, un intérêt plus général pour les bibliothèques du monde antique et du monde byzantin, avec ce jeu sur la bibliothèque comme institution, comme lieu, comme bâtiment, et la bibliothèque comme collection. Et en arrière-fond, un thème qui m'avait aussi intéressé, c'est-à-dire le rêve d'une bibliothèque universelle. D'autre part, et le rêve d'une bibliothèque universelle qui peut entraîner soit la collection de collections qui normalement n'auraient pas de limite et ont vocation à recueillir tous les livres du monde, c'était le projet des Ptolémées à Alexandrie, ou bien devant l'impossibilité d'un tel projet, aucune bibliothèque comme institution ne peut penser accueillir l'ensemble de tous les livres qui n'ont jamais été écrits, la substitution à la bibliothèque comme institution, du livre comme bibliothèque, c'est-à-dire de ces bibliographies qui sont des recensements universels de ce qui a été écrit, et de là son intérêt pour des auteurs comme Diodore de Sicile ou comme Pline, et pour la période byzantine, puisque comme le patriarche Photius. Et donc ici, c'est le substitut à l'impossible universalité qui est donné par le livre comme bibliothèque, soit comme une collection de titres, soit comme un recueil d'extraits. Et alors, c'est dans ce contexte d'une œuvre considérable, qui, je crois, mérite d'être lue et méditée, que s'inscrit son intérêt pour la transmission des textes de la tradition, c'est-à-dire, en fait, la constitution du corpus canonique qui est le nôtre pour les textes grecs et pour les textes latins, corpus canonique qui est à la fois fait de trésors qui ont survécu, comme dirait Gibbon, mais qui est aussi en grande partie dessiné par les pertes qui ont été créées par les dégâts des guerres ou les dégâts de l'ignorance, pour revenir à Gibbon. Et c'est dans ce contexte qu'en 2002, dans cette perspective, il a publié Le copiste comme auteur, avec une question sous-jacente: comment la littérature ancienne nous est-elle parvenue et dans quel état, c'est-à-dire avec quelle irrémédiable perte et quelle conservation. Alors, le premier fait fondamental, qui n'est pas vraiment développé dans le livre parce qu'il est considéré comme quelque chose qui est acquis, c'est que lorsqu'on parle évidemment de la transmission du patrimoine textuel de l'Antiquité grecque et romaine, on parle d'une transmission qui se fait sur un support qui n'est pas celui qui, à partir de l'époque médiévale, va conduire jusqu'à la Renaissance et jusqu'à nous les textes de l'Antiquité. Cette transmission, et qui est le support sur lequel les copistes écrivent, c'est évidemment le livre de l'Antiquité, le rouleau, le volumen, qui est très dans la morphologie et sans rapport avec la morphologie du codex, qui est, comme je le disais au remplacement ce matin, imprimé ou manuscrit, depuis le 2e, 3e ou 4e siècle jusqu'à aujourd'hui, un livre qui finalement a des traits relativement stables, des cahiers, des feuillets, des pages, une reliure, et du coup la possibilité d'une pagination et d'une indexation. C'est cela qui définit le codex. Et évidemment, c'est sous cette forme-là que la Renaissance, d'abord, puis ensuite la critique philologique, vont rencontrer les textes grecs et latins, puisque ne subsistent que des fragments des rouleaux, par exemple à Herculanum ou Pompéi. Et donc, il y a déjà une première violence, si j'ose dire, une première transformation radicale entre les formes de circulation des textes dans le monde antique et les formes de leur conservation et reproduction à partir des scriptoria monastiques, puis ensuite des éditions humanistes et puis des éditions savantes du 19e et du 20e siècle. Alors, on ne réfléchit peut-être pas assez sur les transformations qu'implique ce passage des mêmes, entre guillemets, textes, des rouleaux qui les ont portés dans l'Antiquité grecque et romaine, au codex ou au codices, qui les ont transmis à partir de la culture médiévale. Parce que l'enjeu essentiel ici, c'est la relation entre le livre comme objet matériel et le livre comme œuvre, comme discours, comme texte, le problème que j'évoquais ce matin. Parce que dans le monde du rouleau, on a soit ce que l'on appelle monobiblioi, c'est-à-dire une œuvre ou un rouleau, enfin une œuvre entièrement inscrite à l'intérieur d'un seul rouleau, on a une situation où plusieurs œuvres, plusieurs textes, bref, peuvent être inscrites dans le même rouleau, mais dès qu'une œuvre a une grande ampleur, il s'agit là d'une œuvre qui est dispersée, fragmentée sur plusieurs rouleaux. Et ceci n'est pas sans effet sur la conservation des textes, comme on le verra. Donc vous voyez une situation qui est inverse, en quelque sorte, du codex, puisque le codex, pas immédiatement, mais à partir des 4e, 5e, 6e siècles, va devenir le livre capable d'accueillir plusieurs œuvres à l'intérieur de sa reliure, et dans le même objet codicologique, une pluralité d'œuvres, alors que le monde du rouleau, de façon dominante, est tout l'inverse, c'est-à-dire une même œuvre dispersée entre plusieurs livres, si on accepte, comme on le fait en français, en anglais un peu moins facilement, qu'on peut désigner comme livre le rouleau. C'est toute une controverse qui parfois a un peu obscurci la perception, c'est-à-dire est-ce que le terme de « book » peut être appliqué au rouleau. Et il y a toute une tradition anglo-américaine qui considère que non, et que book, c'est forcément un codex, et préalablement, on parlera de roll ou de scroll. Là aussi, deuxième ambiguïté, parce qu'il ne m'a jamais paru clair la différenciation établie entre les deux termes, roll et scroll. Évidemment, pour le monde hébraïque et pour les manuscrits bibliques, on parle des scrolls, des rouleaux de la mer morte, par exemple, alors que roll s'appliquerait plutôt au texte de l'Antiquité, mais il n'y a aucune rigueur dans ce partage. Mais vous voyez que c'est un fait fondamental et qui a été bien souligné par un historien comme Guglielmo Cavallo, c'est-à-dire le codex capable d'enserrer, de s'approprier plusieurs œuvres à l'intérieur d'un seul objet écrit, et à l'inverse, une œuvre d'importance nécessairement fragmentée entre plusieurs rouleaux dans le monde de l'Antiquité, considérant que les rouleaux qui correspondent à une seule œuvre, ou même qui peuvent avoir accueilli plusieurs œuvres brèves, sont minoritaires par rapport à cette situation de la pluralité des rouleaux pour une même œuvre, alors qu'on aurait l'unité d'un livre pour une pluralité d'œuvres dans le cas du codex. Alors on voit que cette réalité a des conséquences sur la manière dont les textes ont été copiés, alors là non pas par les copistes médiévaux, par les copistes antiques, mais par les copistes médiévaux. D'une part, l'ordre des parties a pu être bouleversé, c'est-à-dire des copies qui ont transformé l'ordre du texte tel qu'il était donné dans des rouleaux dont on avait perdu la logique de continuité. Aussi, le fait que le livre, au sens d'une unité de discours, comme on dit le livre 1, le livre 2, le livre 3, à l'intérieur d'un même livre, correspond assez souvent à ce qui était le contenu de texte correspondant à un rouleau. On a pu le montrer pour saint Augustin, par exemple, pour la Cité de Dieu, que les livres, au sens textuel, correspondaient à ce qui avait été des rouleaux au sens matériel. Et que donc, en quelque sorte, il y a une présence perpétuée de la fragmentation en rouleaux à travers la fragmentation du texte, qui maintenant est tout entier dans le même objet. Un autre élément, c'est le fait que lorsque se fait ce passage du rouleau au codex et la copie des textes qui étaient portés par les rouleaux dans des codices, on peut voir que assez rigoureusement, chaque codex correspondait à, pour le théâtre, 7 pièces de théâtre, et pour les textes en prose, par exemple histoire ou philosophie, correspondait à 5 livres, mais 5 livres au sens aussi de 5 rouleaux. Et de là que la possible disparition, lorsque les livres de certaines œuvres ont été perdus, une partie, évidemment, du texte qui correspondait à ce contenu en termes de livres ou de blocs de texte. Donc c'est le premier élément. Le premier élément, c'est les effets du passage du rouleau au codex, et qu'on a un peu oublié, évidemment, puisque depuis l'époque médiévale, on lit les textes anciens dans une forme qui n'était pas celle pour laquelle ils étaient composés ou dans laquelle ils étaient transmis et à travers de laquelle leur texte était approprié par les lecteurs. Et cette radicale transformation est souvent sous-estimée, et on projette assez anachroniquement, sans le savoir, qu'un rapport au texte qui est celui du lecteur qui lit le texte dans un codex, et donc qui peut l'indexer, le paginer, le feuilleter, retrouver un passage, etc., on la projette indûment sur ce qu'était la pratique de lecture du même, entre guillemets, texte à l'Antiquité, où aucune de ces opérations n'était possible, et par exemple, encore moins, une opération qui est celle d'écrire en lisant. Un lecteur de rouleau doit mobiliser ses deux mains pour tenir les deux supports autour desquels le rouleau était enroulé et est dérouler, et donc faire apparaître devant les yeux des colonnes de texte qui correspondent à une sorte d'unité visuelle, on pourrait dire un écran si on voudrait, mais un écran sur lequel successivement les colonnes qui apparaissent sont déroulées du premier support et réenroulées sur le deuxième support de bois. Et ceci empêche d'écrire en lisant. Vous pouvez écrire à condition de refermer le rouleau en le tenant d'une seule main. Ou vous pouvez, entre guillemets, écrire en dictant à partir de votre lecture. Mais ce que permet le codex, c'est évidemment ce que nous faisons tous, et peut-être qui a été fait depuis l'époque médiévale ou la basse antiquité, c'est-à-dire de pouvoir poser sur un support, quel qu'il soit, pupitre, table, le livre codex, et du coup de lire et d'écrire en même temps. Donc, il y a là une révolution qui m'a toujours paru beaucoup plus importante que la révolution de Gutenberg, puisque Gutenberg finalement invente une nouvelle technique pour reproduire des textes dans une forme de livre dont il a hérité, d'un héritage de longue durée, puisqu'il remonte au 2e, au 3e ou au 4e siècle, après Jésus-Christ. Et donc il n'y a pas de rupture aussi violente, aussi forte, entre manuscrits imprimés que entre rouleau et codex. Donc, première mise en place qui est extrêmement importante et qui donne un arrière-fond au reste de la discussion. La deuxième thèse fondamentale de Canfora, c'est l'importance de la disparition des textes qu'il oppose à cette sorte d'optimisme à la Pangloss de Gibbon, dans la mesure où penser que les œuvres les plus importantes, finalement, sont celles qui ont recueilli d'autres œuvres moins importantes en leur donnant place, Aristote, Pline, Galien, Galien pour la médecine, Pline pour la philosophie naturelle et Aristote pour la philosophie, est sans doute sous-évalué l'importance fondamentale des pertes. Alors d'abord, quant aux modalités des pertes, ça peut être la perte, comme je le disais, de partie d'une œuvre. C'est-à-dire que si, pour certaines œuvres, on a par exemple des livres au sens d'unité textuelle, mais qui renvoyaient, comme je l'ai dit, au sens d'unité matérielle. Et dans beaucoup d'auteurs de l'Antiquité, on s'aperçoit que des parties manquent. Chez Polybe, on a seulement 5 livres sur 40. Pour l'œuvre de Diodore, 15 livres sur 40. Pour Dion Cassius, 24 livres, toujours dans ce double sens d'unité de texte et antérieurement d'unité de rouleau, sur 80. Ou bien que pour Eschyle et Sophocle, on a 7 tragédies, pour Plaute, 21. Et donc, on voit bien qu'il s'agit de disparition de codex qui avait rassemblé d'autres pièces, au nombre de 7, mais celui qui a survécu en avait gardé 7, et dans le cas des historiens, de Polybe ou de Dion Cassius, ou du texte de Diodore de Sicile, la disparition d'un codex qui avait rassemblé 5 rouleaux, 5 livres de l'œuvre. Et donc, il y a là un premier élément qui est celle d'une mutilation liée à la disparition des codex qui correspondait à des parties des œuvres. L'autre figure, c'est la disparition totale d'œuvres qui ne sont connues que par les extraits ou les citations qui en sont données dans d'autres textes et qui ont été connues parce que leurs titres ou des extraits ont été rassemblés dans ces livres bibliothèques que j'évoquais, à commencer par Diodore de Sicile, 1er siècle avant Jésus-Christ, ou Pline, ou Photius, au 9e siècle, à Byzance. Des recueils qui donne des extraits de textes qui, par ailleurs, n'ont aucune existence de survivance. Et puis, plus encore, des titres seulement, sans même d'extraits, qui sont donnés dans différents textes de l'Antiquité, indépendamment ou à côté des répertoires bibliographiques. Et puis, on peut imaginer, poussant encore plus loin, on commence avec la disparition de fragments d'œuvres, de parties d'œuvres, pour aller vers la disparition d'œuvres totales, mais qui sont connues par leur titre ou par des extraits, vers l'hypothèse de textes qui n'ont laissé aucune trace. Donc, il y a là une première modalité qui est liée à cette fascination pour les textes perdus et qui met en place l'importance des disparitions. Et du coup, Canfora ébauche en quelque sorte des lois pour les taux plus importants que d'autres de disparition. Par exemple, certaines sont évidentes, c'est-à-dire que les textes les plus tardifs, c'est-à-dire les textes les plus près, les plus près de nous, ont des taux de survivance plus grands que les textes les plus anciens. Que aussi les résumés, épitomés, sommaires ont des taux de survivance plus grands que les textes dans leur intégralité, qu'ont été particulièrement victimes des disparitions, les commentaires, qui pouvaient être des commentaires de plusieurs dizaines ou centaines de rouleaux, et qui en général ont disparu, et dont on sait par les mentions qui s'en sont faites dans des textes qui, eux, ont survécu. Aussi les traductions, et pourtant là, c'était aussi un projet essentiel d'Alexandrie, puisque vous savez que dans la bibliothèque, qui est en même temps un lieu de scientifique, on a traduit la Bible, donc, la Bible des Septante, on a traduit, c'est-à-dire le Pentateuque, on a traduit aussi Zoroastre, ou encore, pour des études alors plus précises encore sur l'historiographie, un taux de survivance qui serait de une œuvre sur 40. 40 repérables et une seule conservée partiellement ou totalement. Donc il y a des sortes de lois de disparition. Et puis, le dernier élément, c'est des lieux de survie ou des lieux plus vulnérables. Et ici, évidemment, les grandes bibliothèques, Alexandrie étant un modèle paradigmatique, sont ces grandes bibliothèques royales ou publiques, comme à Rome, sont plus vulnérables à la destruction. Revenant sur cette fameuse question de qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie, qui était l'objet de son livre, Canfora, un peu comme Gibbon exclut la responsabilité du calife Omar, exclut aussi la responsabilité de César, dans 48-47 avant Jésus-Christ, dans la mesure où, avec une lecture minutieuse des textes, on voit très bien que ce qui a été détruit étaient des livres qui n'étaient pas dans la bibliothèque, qui étaient en dépôt sur le port, pour être envoyés comme présents. Et ça a peut-être 40 000 rouleaux qui ont été détruits, en particulier des rouleaux de textes luxueux et qui pourraient être considérés comme un présent envoyé à Rome. Mais ce n'est pas la bibliothèque d'Alexandrie qui est détruite par César, c'est une partie des fonds qui étaient déposés en dehors de la bibliothèque. Et la preuve, c'est qu'il y a, après cette période, des descriptions de la bibliothèque qui sont faites par Strabon, qui dit l'avoir utilisée, ou des mentions dans un texte, c'est une de ces compilations de textes de textes de Athénée de Nocrates qu'étudie Christian Jacob. Donc, ni le calife Omar, ni César, et pour Canfora, la destruction date des années 270-275 après Jésus-Christ, à l'intérieur des conflits qui opposent l'empereur Aurélien et la princesse Zénobie, et il y a une destruction de partie de la ville qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Ce qui est détruit par l'invasion arabe est une autre bibliothèque qui était une bibliothèque déjà chrétienne, avec des textes ariens ou des hérésies des premiers siècles, et qui, elle, bon, est détruite en 640, mais ce n'est pas la bibliothèque d'Alexandrie qui avait disparu au cours du IIIe siècle. Et la conservation, en revanche, était mieux assurée dans des bibliothèques périphériques, qui n'étaient pas celles des grandes cités, des bibliothèques d'institutions séculières, comme les gymnases, qui n'étaient pas les bibliothèques royales ou publiques, ou bien même dans des collections privées. Alors, ces éléments sur les modalités des pertes, les lieux de conservation ou de disparition et les lois qui gouvernent ces disparitions n'est pas sans intérêt pour l'histoire moderne, dans la mesure où, comme on l'avait vu dans des séminaires précédents, que pour des types de production imprimée ou de production textuelle, les pertes sont quasi identiques avec des pourcentages qu'on peut voir pour l'Antiquité. Je pourrais prendre deux exemples qui m'avaient retenu, qui est l'exemple du théâtre, en particulier du théâtre anglais, élisabétain et des deux premiers Stuart, où le même travail, c'est-à-dire de comparer les titres que l'on connaît avec les œuvres que l'on possède, en général dans une édition imprimée ou parfois encore dans un manuscrit, donne l'idée que peut-être 40% et 2/3 des pièces dont on a un titre ont disparu, n'ont jamais été publiées et dont on n'a conservé aucun manuscrit. Donc on a là aussi un continent textuel, théâtral, qui a disparu. Ou bien quand on pense au monde de l'imprimé et qu'on pense à ces objets imprimés qui n'étaient pas des livres, non seulement toutes les formes d'imprimés pour le colportage, mais au-delà, les imprimés qui étaient ce qu'on appelle en anglais « job printing », les travaux de ville, tout ce qui était peut-être une activité essentielle pour les imprimeries, des placards, des affiches, des pétitions, des avis, des billets de pèlerinage. Cet ensemble de textes imprimés a aussi pratiquement totalement disparu. Donc, on a une très grande incertitude pour restituer, à partir des objets conservés, ce qui était réellement l'activité d'imprimerie. Et on a un peu cette tendance à penser que les imprimeries impriment des livres. Au XVIIIe siècle, en France, il y a beaucoup d'imprimeries qui n'ont jamais imprimé le moindre livre. Donc, une imprimerie, c'est au service des progrès de la culture écrite et pour introduire dans les pratiques commerciales, dans les pratiques de dévotion, dans les pratiques administratives, un rôle donné fondamental à l'imprimé, mais des imprimés éphémères qui disparaissent. Et même lorsqu'on va du côté de quelque chose qui est livret ou livre, les chapbooks anglais, les pliegos sueltos en Espagne, le répertoire du colportage en France, on peut voir des éditions entières dont n'ont subsisté aucun exemplaire. Donc, on a ce parallèle possible. Et des lois de survie aussi avaient été proposées par un historien comme Jean-François Gilmont pour un même texte, montrer ce qu'on pouvait attendre, mais qui était montré statistiquement, que, évidemment, que ce texte avait d'autant plus de chances d'être présent lorsqu'il avait été publié dans un grand format et possédé par des bibliothèques ecclésiastiques, que lorsqu'il a été publié dans des plus petits formats et possédé par des particuliers. Il l'avait fait sur le martyrologe de Jean Crespin pour montrer les taux de disparition tout à fait fort. Un exemple aussi frappant serait qui met en question d'ailleurs le concept de rareté. On dit des livres rares, mais certains livres rares ne sont pas rares. Ils sont rares par la valeur qu'ils ont acquise. Si on prend le Shakespeare, le folio de 1623, il y en a une quarantaine d'exemplaires à la Folger Library, et il y en a aussi d'autres exemplaires dans d'autres bibliothèques du monde. Donc c'est un livre peut-être un des plus chers du monde sur le marché, si tant est qu'il apparaisse, du livre rare. Mais c'est une rareté construite, ce n'est pas une rareté objective. Alors que si vous pensez à la première édition d'Hamlet de 1603, jusqu'au début du XIXe siècle, elle était totalement inconnue. Un exemplaire est apparu à ce moment-là et on en a un second. Mais pour une édition in quarto de cette première édition d'Hamlet, seulement deux exemplaires ont survécu. Donc je crois que la réflexion de type Canfora-Gilmont est tout à fait utile pour redresser un certain nombre de perceptions, sans aller peut-être jusqu'à cette position extrême qui serait de penser qu'un livre a circulé d'autant plus qu'on en a d'autant moins d'exemplaires. Il y a quelque chose de vrai dans cette affirmation, mais qui vient un peu brouiller les certitudes que l'on peut tirer des statistiques bibliographiques. Alors, entrons plus avant, problème volumène codex, la disparition des bibliothèques et des livres et du coup les mutilations par rapport au patrimoine textuel de l'Antiquité. Le pas suivant, c'est de rappeler que si les textes ont circulé dans l'Antiquité, c'est parce qu'ils étaient copiés par des copistes, et si les textes sont passés des rouleaux encore survivants aux codices qui les ont conservés jusqu'à nous, c'est aussi du fait du rôle des copistes, mais là, dans ce cas-là, des copistes dans les scriptoria des monastères médiévaux. Évidemment, Canfora porte l'attention surtout sur ces copistes de l'Antiquité. Et même sur en amont, c'est-à-dire le fait que le premier état d'un texte, à partir de ce qui pouvait être des brouillons ou d'un premier état par l'auteur, et qui était le résultat d'une transcription, puisque l'on sait que dans l'Antiquité, mais encore dans le Haut Moyen-Âge, la composition du texte pouvait se faire soit par la dictée, donc là, il y a une première transcription de la parole vive de l'auteur, soit à partir de supports écrits, soit sur le papyrus, soit sur la tablette de cire, qui ensuite devait être transcrite sur autre papyrus et même en même temps ou plus tard sur le parchemin. Alors là, les conséquences de cette pratique qui donne un rôle central au copiste qui transcrit l'œuvre, qui reproduit l'œuvre, qui transfère l'œuvre, c'est les trois rôles, sont tout à fait conséquentes et importantes. D'abord, elles expliquent pourquoi on peut avoir une pluralité de textes pour une même œuvre. Thème que je développais pour le monde de l'imprimé, où on a plusieurs états imprimés pour une même œuvre, qui est à la fois présente dans chacun et identique à aucun. Dans le cas de l'Antiquité, on a là la raison des variantes entre les états de l'œuvre et aussi la raison des contaminations qui peuvent exister entre une œuvre et une autre. Une autre conséquence, c'est le rapport avec l'auteur. D'un côté, la notion d'auteur peut être déplacé sur la pratique de cercles lettrés, qui sont à la fois des cercles de lecture et des cercles de composition, des communautés de lecteurs qui jouent un rôle fondamental dans la transmission, voire même la composition des œuvres, à la fois par un travail de collaboration, par un travail de révision, par un travail de continuation. On a une idée ici, à la fois dans le monde grec et dans le monde romain et dans le monde byzantin, de ce processus de composition et transmission collectif qui fait finalement que même si un nom va se lier avec une œuvre, en fait, en amont de cet lien créé par la fonction auteur, il y a ce processus collectif lié à des cercles intellectuels qui sont les lieux où s'élaborent ces textes et où s'élaborent aussi les copies qui les transcrivent. Une autre conséquence de cela va être non pas d'effacer l'identité d'auteur au profit de ce processus collectif, mais presque au contraire, d'impliquer, d'affirmer une identité d'auteur sur des œuvres écrites par d'autres. Et dans les exemples que prend Canfora, les uns sont très liés à son travail, par exemple Démosthène, où un certain nombre de discours sont attribués à, placés sous le nom de Démosthène, dès les copies les plus anciennes, comme s'il y avait là, finalement, une affirmation d'identité d'auteur qui ne répondait pas nécessairement à qui a écrit, mais finalement, sous quelle identité les textes circulent. Et la même chose avec les traités d'Aristote. Et du coup, on a des noms qui deviennent des éléments unificateurs de corpus indépendamment de la pratique de l'écriture et de la production, de la création. Et ce que montre aussi bien Canfora, c'est que même lorsque, dans l'Antiquité, des critiques montrent qu'il s'agit de textes inauthentiques, il y a une sorte d'inertie ou de résistance de l'attribution qu'il qualifie de fétichisme du texte transmis qui va rester sous le nom de Démosthène ou sous le nom d'Aristote. C'est une contribution importante à un thème qu'on a souvent discuté ici après la suite de la lecture de la conférence de Foucault, qu'est-ce qu'un auteur ? C'est-à-dire le rapport entre l'écriture, qui écrit, et l'assignation au nom propre, qui est auteur. Nous, on a un peu l'habitude de penser qu'il y a une identité et que l'écrivain est auteur et l'auteur est écrivain. Et si il y a suspicion, comme disait Foucault, d'un pseudonyme ou de l'anonymat, on va essayer de retrouver le lien. Qui est derrière ce pseudonyme ou cet anonymat ? Et de réunir de nouveau l'écrivain et l'auteur. Il n'en allait pas de même au XVIe et XVIIe siècle. Le nom propre peut être, à la manière d'Aristote ou de Démosthène, peut être une commodity, peut être un argument de vente. Et il y a en quelque sorte une mobilité, une labilité du nom propre attribué à des œuvres, indépendante ou largement ou partiellement indépendante de l'identité de qui a écrit l'œuvre. Le cas de Shakespeare serait là aussi tout à fait symptomatique, puisque d'un côté, jusqu'en 1598, toutes les œuvres de Shakespeare sont publiées avec une page de titre qui ne nomme pas l'auteur, donc un régime normal de l'anonymat. Ce que l'on nomme, c'est la troupe qui représente les pièces. Et puis, donc, c'est un Shakespeare par défaut, un Shakespeare qui est dissous derrière l'anonymat du texte. Et à l'inverse, il y aura un Shakespeare par excès à partir du moment où le nom devient fameux à la fin des années 90, à partir de 1598. Son nom est manipulé, utilisé par des éditeurs pour l'appliquer à des poèmes ou à des pièces dont personne ensuite n'a jamais reconnu la paternité ou l'authenticité shakespearienne. Et donc c'est un Shakespeare par excès, c'est-à-dire ici le nom propre ou les initiales mises sur des pièces ou même un recueil de poèmes qui circulent sous son nom. Et un des apports de la critique dès le XVIIIe, peut-être, et puis renforcé au XIXe siècle, c'est de faire un peu le tri entre des œuvres anonymes mais qui sont shakespeariennes et des œuvres qui portent le nom de Shakespeare mais qui ne doivent pas entrer dans le corpus moderne qui délimite l'identité, qui est délimité par l'identité entre l'écrivain Shakespeare et le nom propre Shakespeare. Donc je pense qu'il y a là des réflexions aussi extrêmement importantes et que Canfora situe dans son propre univers, mais qui ne sont pas sans effet sur nos propres réflexions, et donc du coup de penser que le moment où ce type d'opération ne sera plus possible, où le critère d'authenticité, c'est-à-dire où l'auteur doit être l'écrivain et où l'écrivain est l'auteur, va s'imposer comme une norme intangible par rapport à un état précédent dans lequel la dissociation est tout à fait forte. Et même dans un texte qu'on a commenté souvent ici de Borges, Borges et io, Borges et moi, dans lequel il joue sur cette division entre l'écrivain, le moi, le io, et le nom propre, Borges. Et il joue sur cette tension entre l'intériorité du moi et l'imposition par l'institution. L'institution académique, l'institution dictionnaire, l'institution lectorat du nom propre. Même s'il joue sur cet écart, montrant qu'effectivement l'écrivain essaye d'échapper à l'auteur, mais que chaque fois l'auteur, le nom propre, rattrape l'écrivain, c'est à l'intérieur du même paradigme où écrivain et auteur sont un, même s'ils sont divisés, comme dans le cas de ce texte magnifique de Borges. Mais on est dans le paradigme qui se met en place, sans doute au XVIIIe siècle, où les deux éléments doivent aller de pair. Alors que dans le monde de Canfora ou dans le monde de Shakespeare, il y a une dissociation. Et une dissociation qui est acceptée comme telle. Comme je le disais, même lorsque une critique peut désattribuer une œuvre, par exemple un fameux discours de Plutarque, néanmoins, il demeure à l'intérieur des œuvres de Plutarque par cette sorte d'inertie ou fétichisme du corpus une fois constitué. Et inversement, donc, une production collective qui va se trouver, se substituer au nom propre. La dernière observation sur ce point, c'est qu'on voit très bien que cette distinction, elle amène deux types de délits. Le délit moderne, c'est évidemment de mettre son nom sur le texte d'un autre, et c'est ce qu'on appelle le plagiat. Mais le délit de la première modernité, c'est de mettre un nom fameux sur son texte ou sur son édition. Et c'est donc dans ce cas-là l'inverse du plagiat. Ce n'est pas de voler le texte pour le mettre sous son nom, c'est de voler un nom pour le placer sur son texte. Et c'était ce dont certains auteurs se plaignaient, par exemple, dès le temps de Shakespeare, lors de la publication d'un recueil de poèmes qui s'appelle « The Passionate Pilgrim » au début du XVIIe. Il apparaît sous le nom de Shakespeare sur la page de titre, or il n'y a que 4 poèmes de Shakespeare et les autres par d'autres poètes. Et donc l'un, Marston, se plaint, n'accusant pas Shakespeare, mais accusant l'éditeur d'avoir abusé ainsi de la crédulité du public et d'avoir attribué à ce nom Shakespeare des œuvres qu'il n'a pas écrites. Ou, dans le cas espagnol, on se plaint que de manière permanente Lope de Vega, c'est-à-dire que l'on publie des comédias sous son nom à l'intérieur de recueils, puisque vous vous souvenez peut-être que dans le monde castillan, on publie les comédias sous forme de partes, c'est-à-dire 12 comédies, ou 12 pièces rassemblées dans une même unité, et sur la page de titre, le nom de Lope de Vega, alors même qu'il y a une ou deux de l'OP, ou même aucune, mais le nom fait vendre celles qui sont vendues, et là aussi, il y a un vol du nom, et non pas un vol du texte. Dans ce régime-là, vous ne pouvez pas porter plainte pour plagiat. Ce que vous pouvez faire, c'est dénoncer par un autre texte, ou bien dans des préliminaires, mais le délit n'est pas constitué. Le seul délit qui est constitué, c'est un délit de la librairie, la contrefaçon. Quelqu'un qui a violé le privilège d'un libraire sur un texte pour le publier lui-même. Mais ça n'a rien à voir avec la question de la propriété intellectuelle ou de la propriété littéraire. Donc voilà, une réflexion qui me paraît importante, qui a une autre conséquence, alors pas simplement dans ce jeu qui n'est pas dans le livre de Canfora, mais je l'utilise pour mettre des parallèles, établir des parallèles entre la première modernité et le monde de l'Antiquité, La deuxième conséquence, qui elle est dans le livre de Canfora, c'est les effets sur la philologie moderne. Là, on entre dans un aspect un peu plus technique, mais qui est tout de même important, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle allemand, l'idée que éditer un texte suppose de remonter à un archétype duquel seraient découlées toutes les variantes et duquel tous les états différents du texte seraient dérivés, donc une descendance verticale. Et pour remonter vers cet archétype, ou bien on désigne un des états du texte comme étant l'archétype, ou bien, supposant que l'archétype a disparu, on le reconstruit, on le reconstitue. Et pour Canfora, c'est sans doute là une critique très forte à l'intérieur de sa propre discipline, la critique de la philologie, identifiée au nom de Lachmann, qui a fondé cette idée de la généalogie textuelle à partir d'un ancêtre commun qui est désigné comme archétype. Pour Canfora, ceci ne vaut pas, d'une part, parce que finalement, le texte que l'on dit archétype lorsque c'est un texte qui existe n'est qu'un état parmi d'autres, et rien n'indique que nécessairement il est celui dont dérivent tous les autres états, et d'autre part parce que cette manière de voir qui est très généalogique, qui finalement imagine l'histoire des textes comme l'histoire des hommes, dans lesquels il y a des généalogies qui remontent à un ancêtre commun, pour lui, ignore cette dimension verticale les transmissions horizontales, c'est-à-dire le fait qu'à une même époque, un texte peut être copié dans la même synchronie et que des variantes s'introduisent dans cette transmission horizontale, qui n'est pas une chronologie verticale, mais qui est une contemporanéité de différents états de texte à travers les pratiques des copistes. Et donc, pour lui, finalement, troisième élément, entre la distance chronologique est immense entre l'archétype et les états que l'on peut avoir à partir des copies médiévales des textes de l'Antiquité. Mais le point le plus important, c'est ça, c'est l'idée qu'on ne peut pas penser l'histoire des textes simplement comme une généalogie descendante à partir d'un ancêtre commun, mais les penser dans la simultanéité des états de copie qui introduisent des variantes, des contaminations ou des différences. Et dans un monde où les textes, évidemment, ont survécu en petit nombre, un des moyens de voir cela, c'est d'analyser très précisément les citations d'un texte dans un autre, parce que même si l'état complet du texte cité a disparu, la citation peut indiquer, comparée avec d'autres états de texte, des variantes. Et donc, le même texte cité différemment, lorsqu'il ne s'agit pas simplement d'une paraphrase, mais d'une citation qui se présente comme littérale, lorsque dans la citation apparaissent des différences avec le texte tel qu'il est connu à partir d'autres états de texte, on a une indication d'une transmission que Canfora qualifierait de horizontale. Cette érudition, pour lui, elle n'est pas simplement, enfin, cette tradition philologique, elle n'est pas simplement l'héritage de la tradition critique essentiellement allemande du XIXe siècle, mais elle peut être déjà préfigurée par les pratiques intellectuelles et textuelles à Alexandrie même, dans la bibliothèque. Puisqu'il s'agissait, dans le projet de la bibliothèque, non seulement de conserver tous les livres du monde, ce qui expliquait que lorsqu'un bateau arrivait, on confisquait tous les livres qui se trouvaient sur le bateau, on les copiait, on rendait les copies aux propriétaires. Donc c'était l'idée, non seulement par achat, par conquête, mais aussi par une sorte d'appropriation, de constituer une bibliothèque dans laquelle se trouveraient tous les livres du monde, mais on a minimisé ce qui était peut-être le plus important encore à Alexandrie, c'est-à-dire un centre d'érudition qui devait établir et commenter les textes. Établir, cela voulait dire résorber la pluralité des variantes dans un texte unique. Substituer une version unique à une sorte de dissémination du texte. Et c'est pourquoi que Canfora introduit la figure de ce qu'il appelle l'éditeur, qui n'est pas le copiste, mais qui est, par exemple, le premier bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie, qui s'appelle Zénodote, et qui a édité, entre guillemets, Homère, c'est-à-dire qui a établi un texte de l'Iliade et l'Odyssée qui résorbait les variantes de différents états pour donner un texte unique. Et donc, il y a donc une généalogie de cette critique de la généalogie textuelle qui fait remonter du modèle philologique du XIXe siècle à sa préfiguration alexandrine avec ce travail d'édition des textes anciens accompagnés d'un travail de catalogage et de description et accompagné d'un immense travail de traduction et de commentaire. Donc la bibliothèque d'Alexandrie comme un lieu de production de savoir. Et alors, point de discussion avec lui, à un moment dans le livre, il contraste cette transmission du manuscrit, où on voit un rôle décisif du copiste qui peut introduire des variantes dans les états de texte, avec l'imprimerie, où, dit-il, le rôle du compositeur est plus limité. C'est la note 11 à la page 30 que se lit ainsi. Le typographe, bon, entendons le typographe, celui qui compose le texte, est moins actif, moins entreprenant, surtout parce qu'il travaille au sein d'une division du travail articulée et contraignante. Je pense que là, c'est retombé dans une ornière qui consiste à vouloir marquer des différences radicales entre la culture du manuscrit et la culture de l'imprimé, parce que cette affirmation, à mon avis, suppose beaucoup de nuances et de corrections. La première, c'est celle que j'ai dit pour commencer, le fait qu'on oublie qu'à l'âge de l'imprimé, le rôle des copistes reste fondamental. Il reste fondamental pour la transmission du manuscrit à l'imprimé, avec cet établissement par des copistes professionnels, des scribes professionnels, des amanuenses, du texte, comme on dit en espagnol, la copia en limpio, la copie au propre, lisible, qui va être lue par les censeurs, qui va être lue par les compositeurs et correcteurs, mais aussi passe le fait que les copistes restent très importants pour tout cet important secteur de la publication manuscrite. Sans oublier même le fait que certains auteurs deviennent des copistes d'eux-mêmes et qu'on peut voir dans les manuscrits autographes qui ont survécu, par exemple pour le théâtre, que certains auteurs sont des copistes d'eux-mêmes, soit en général pour offrir à un protecteur leur texte de leurs mains. C'est le cas par exemple de Middleton. Et au XVIIIe siècle, dans un autre contexte, on peut penser à Rousseau, qui d'ailleurs était copiste de profession, puisqu'il a vécu soit en copiant de la musique, soit pendant une période de sa vie en copiant des archives de Savoie, du Piémont, à Chambéry, lorsqu'a été établi le premier grand cadastre d'une monarchie moderne, description de chaque village, de chaque champ, de chaque possession. Et Rousseau a travaillé. Donc c'est un copiste de profession, il sait ce que c'est que copier, mais il deviendra copiste de lui-même, puisque, par exemple, pour la Nouvelle Héloïse, on a trois copies qu'il a faites, et de nombreux de ses textes, il les a lui-même copiés plusieurs fois. Et donc, la différence c'est que Middleton est seulement copiste de certaines de ses œuvres pour les offrir au patron, au protecteur, alors que dans le cas de Rousseau, la copie des textes de Rousseau par lui-même s'inscrit dans un contexte plus vaste, qui est celui de l'auteur archiviste de lui-même, ce que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire le moment où l'auteur est conscient et attentif à conserver les états successifs de la composition de ses œuvres. Donc, premier élément que Canfora ne prend pas en compte, c'est qu'on ne peut pas opposer scribe du monde antique et typographe du monde moderne parce qu'il y a de nombreux scribes dans le monde moderne. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas non plus opposer directement copiste et typographe lorsque l'on évoque le texte lui-même, dans la mesure où, avant ou après, l'activité du typographe, du compositeur, joue un rôle important que l'œil correcteur, c'est-à-dire celui qui établit le texte, copy editing, ou qui corrige les épreuves, proofreading. Donc, il y a aussi l'objet principal de l'intérêt des livres récents d'Anthony Grafton. Et finalement, lorsque Canfora montre ce typographe, ce compositeur bridé parce que les tâches sont définies et qu'il lui revient de composer, il est assez loin de la réalité, de la pratique dans les ateliers, puisque, comme je l'indiquais ce matin, que les compositeurs ont une marge à la fois d'initiative, de décision à prendre, et d'autre part, traduit sur la composition imprimée leurs propres préférences, leurs propres habitudes. Et donc, du coup, que, comme les copistes de l'Antiquité, ils introduisent des variantes, variantes quant à la ponctuation, variantes quant aux graphies, variantes parfois quant au texte, par rapport à la copie qu'ils ont reçue comme copie d'imprimerie. Et donc, cette liberté, cette contrainte que leur assigne Canfora n'est pas nécessairement réalisée dans la réalité du travail typographique. Et ceci n'étant que renforcé par le fait que, d'une part, comme on l'a vu, les traités sur l'imprimerie ou les discours sur l'imprimerie attribuent normalement aux correcteurs et aux compositeurs tout un ensemble de tâches qui, à partir du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, vont être le propre de l'auteur. Et donc, du coup, il y a bien là une possibilité de malléabilité ou de transformation du texte qui est donnée à ceux qui participent du processus de sa reproduction. Et d'autre part, il y a une donnée qui est souvent oubliée, c'est le fait que la correction des épreuves implique presque nécessairement dans l'ancien régime typographique la présence de l'auteur, soit la présence de l'auteur dans l'atelier, soit la présence de l'auteur proche de l'atelier, puisque on ne peut pas conserver pendant une durée trop longue les formes composées. Le processus était le suivant. Vous composez les pages qui correspondent à un côté de la feuille, vous composez la forme, c'est-à-dire les pages qui correspondent à l'autre côté, et vous pouvez faire un premier tirage, et en général, on tirait trois exemplaires qui étaient les épreuves. Et donc, pour voir s'il n'y avait pas des erreurs qui avaient été introduites par les compositeurs. Mais pendant qu'on corrige ces épreuves, les formes doivent rester composées. Or, si ce matin je disais que la part dominante du budget dans une édition, c'est le papier, d'un autre côté, les imprimeries ne disposent pas d'un nombre infini de caractères. Donc il faut le plus rapidement possible défaire ces formes, redistribuer les caractères dans la casse du typographe pour pouvoir les réutiliser pour composer de nouvelles pages. Donc, à l'inverse de la situation du 19e ou 20e, où on envoie les épreuves par courrier et où on pourra ensuite recomposer grâce aux procédés mécaniques, là, il y a une urgence. Et donc, la plupart des éditions ne sont absolument pas corrigées par leurs auteurs, qui ne pourraient pas être en position de faire cette opération dans la rapidité qu'elle exige. Et donc, on voit une autre raison de l'importance de ces correcteurs dans les imprimeries, c'est le fait de lier directement à la technique de composition qui fait que l'on doit le plus rapidement possible défaire les pages composées pour réutiliser les caractères typographiques. Alors ça redonne aussi un rôle à ces correcteurs. Donc je serais extrêmement tenté de nuancer évidemment l'affirmation péremptoire de Canfora sur le contraste entre une sorte de liberté d'improvisation et d'initiative des copistes et les règles d'airain qui limiteraient les capacités disons, d'introduction dans le texte des typographes. D'une part parce qu'il y a des copistes à l'âge des typographes, et d'autre part parce que les typographes et les correcteurs ont des rôles beaucoup plus importants et beaucoup plus libres, inventifs ou d'habitude, que l'on suppose généralement. Alors, donc, ce livre a aussi un autre intérêt, c'est-à-dire qu'il mène Canfora à une autre de ses thèmes favoris, c'est-à-dire la question du faux. Alors, cette question du faux, c'est-à-dire de donner comme appartenant à un auteur, à une date, un texte qui, en fait... surtout d'attribuer à une date un texte qui, en fait, a été beaucoup plus récent parce qu'il s'agit d'un faux. Canfora l'a développé à la fois pour le monde de l'Antiquité et pour le présent. Pour le monde de l'Antiquité, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir des faux Aristote ou des faux Démosthènes, mais qui passent comme tels. Ils ne sont pas nécessairement composés avec l'idée de devenir attribué à ce nom, mais ils le deviennent. Et donc, du coup, on est devant des textes qui sont inauthentiques. Ou bien, dans les bibliothèques, la nécessité d'avoir les livres du monde pouvait avoir comme conséquence la multiplication des faux. Et l'exemple fameux, c'est la bibliothèque de Pergame, qui voulait être une bibliothèque en compétition avec Alexandrie, et où tous les témoignages montrent que le fait que le texte soit authentique, c'est-à-dire au plus près de l'auteur, ou inauthentique, c'est-à-dire inventé comme s'il était un texte ancien, n'était pas de grande importance. Et donc, du coup, la bibliothèque est en elle-même, dans le cas de Pergame, une incitation à produire des faux. Donc, il y a toute cette question, les textes qu'on appelle des textes bâtards aussi à Alexandrie. Donc, il y a toute cette question des faux liés à la demande des bibliothèques royales ou liés à la volonté de définir des corpus d'auteurs et d'y faire entrer des textes qu'ils n'avaient jamais écrits. Mais pour terminer, parce que je crois que c'est intéressant, que peut-être c'est quelque chose qui n'est pas assez connu en France, cet intérêt pour les faux, et on rejoint là l'aspect engagement civique, érudition philologique, a conduit Canfora à un engagement très profond dans une grande controverse qui a marqué le début du XXIe siècle en Italie et qui était une controverse qui est liée à un papyrus qui est le papyrus d'Artémidore. Et sur ce papyrus d'Artémidore, Canfora a écrit trois livres, publiés chez La Terza et publiés chez Celerio. Alors, quel était l'enjeu ? L'enjeu est le suivant. Il s'agit d'un géographe, Artémidore, dont on sait qu'il a écrit une géographie en 11 volumes, qui sont tous perdus, qui ont été utilisés et cités par Strabon et par Pline, et dont un résumé, un épitomé, aurait été ou a été établi au IVe siècle après Jésus-Christ par Marcianus qui lui-même a été perdu et qui est connu par une copie du Xe siècle. Donc on est dans le monde des textes perdus. L'œuvre entière de Artémidore a été perdue, et ce qui en était un résumé, un épitomé du IVe siècle a été aussi perdu, et il n'y a que cette trace du Xe siècle de ce qu'était l'œuvre. Or, le phénomène foudroyant a été, en 2004, le fait que la compagnie de San Paolo, qui est une banque, a acheté pour 2 750 000 euros un fragment de l'œuvre d'Artémidore, qui était un papyrus de 2,50 m de long, 32 cm de large, c'est le format classique, et qui donnait une petite partie de la géographie perdue d'Artémidore, qui est une description de l'Hispania, du monde ibérique, avec une carte inachevée, mais qui était la première carte rencontrée pour l'Antiquité. Et sur ce papyrus, avec au recto ou au verso, des dessins sur les rectos des dessins de tête, de mains, de pieds d'hommes, et au verso des dessins d'animaux, en particulier d'animaux exotiques. Donc une découverte qui avait été puissante, inouïe, et du coup l'achat par l'État italien, par la Compagnia di San Paolo, par les Beni Culturali, le ministère italien. Et en 2006, le papyrus d'Artémidore a été exposé à Turin. Et vous pouvez regarder d'ailleurs, il y a une vidéo, je pense qu'on doit la trouver sur YouTube, qui accompagne l'exposition et qui s'appelle « Les trois vies du papyrus ». Et immédiatement, Canfora, qui a visité l'exposition, a eu des doutes sur l'authenticité de ce papyrus. Et à partir de là, s'est développée dans un premier temps une controverse dans la presse, puisqu'évidemment, les 2 750 000 euros n'étaient pas rien, entre Canfora, qui de plus en plus a multiplié les arguments pour dire que ce papyrus était un faux, et d'autre part, certains des plus grands historiens, y compris des historiens de l'art, comme Salvatore Settis, qui ont défendu l'authenticité. Et tout ça était dans le Corriere della Sera, dans la Repubblica, dans Il Manifesto. C'est une controverse de presse extrêmement importante, et il y a un site qui a rassemblé tous ces textes que l'on peut suivre. Et alors, du coup, après, la controverse est déplacée sur un registre savant, puisqu'il y a eu toute une série de colloques qui ont été faits autour du papyrus d'Artémidore, à Berlin, à Oxford, à Pise, à San Marino. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de suivre l'argumentation de Canfora et parfois des réponses. L'argumentation de Canfora a quelque chose qui est... D'abord assez proche de l'argumentation qu'à la Renaissance avait été opposée à la donation de Constantin, cette donation par laquelle l'empereur Constantin avait établi le pape Sylvestre comme suzerain des royaumes d'Occident, ce qui était un document important, fondamental pour la papauté et que Lorenzo Valla a détruit dans son authenticité. Et en commençant par des arguments, et c'est pour ça que je le rapprochais de Canfora, des arguments philologiques. Canfora considère que le lexique et la syntaxe du texte du supposé Artémidore sont impossibles pour cette période. Artémidore, c'est la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'il y a des anachronismes ou des erreurs ou des emprunts qui viennent d'un style de la basse époque byzantine et linguistiquement impossible pour un texte du second siècle avant Jésus-Christ. Donc il y avait tout un premier registre d'argumentation qui portait sur ces écarts lexicaux ou syntaxiques. Le deuxième argument, qui est un argument intéressant, qui là nous ramènerait plutôt au livre fameux d'Anthony Grafton sur Faussaire et critique, Forgers and Critics, était le fait que la matérialité de l'objet semblait donner raison à ceux qui défendent l'authenticité, parce que le papyrus, au sens du matériau, est effectivement un papyrus ancien, 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, et l'encre est une encre qui est celle que l'on rencontre dans les documents de l'Antiquité. Et pour récuser cette évidence de la matérialité, Canfora, là, s'appuie sur plutôt les démonstrations que fait Grafton. Pour qu'un faux soit accepté comme tel, il faut qu'il reprenne des matériaux ou des techniques qui sont ceux de l'époque supposée du texte. Et il est facile de faire de l'encre antique, puisque dans plusieurs textes, on a des recettes de comment faire de l'encre pour l'Antiquité, et donc qui peut être reproduite. Et d'autre part, effectivement, le papyrus qui est utilisé était des fragments de papyrus ancien, et donc une réutilisation possible. Donc l'authenticité du matériau n'invalide pas l'idée qu'il peut s'agir d'un faux. Et puis le coup final porté, me semble-t-il, par Canfora, c'est un argument qui n'est plus philologique, qui n'est plus sur une matérialité que l'on peut reconstituer avec des matériaux de l'époque, mais c'est un argument historique qui l'avait mis sur la piste qui pouvait avoir cette capacité d'imiter des encres, des écritures et des styles grecs, même si peut-être plus byzantins que de l'époque classique. Et il lui est venu à l'esprit de pousser la recherche autour d'un faussaire très connu du XIXe siècle, né en 1820 et mort en 1890, qui s'appelle Constantin Simonidis. Et c'est à lui que Canfora a consacré les volumes dont je parle, un jeu permanent entre Artemidore et Simonidis. Ce Simonidis est un personnage qui était un faussaire génial, d'abord un voleur génial aussi, parce qu'il avait passé du temps au mont Athos, où il avait dérobé un certain nombre de manuscrits, et où surtout, où il avait appris ce qu'étaient les manuscrits anciens. Et à partir de ses passages au mont Athos, il a traversé l'Europe en vendant des manuscrits, en mêlant ceux qui étaient des manuscrits authentiques qu'il avait dérobés et des manuscrits faux qu'il avait produits. D'autre part, il avait une connaissance profonde d'Artémidore et connu par Strabon et Marcianus, et finalement, il avait lui refait le voyage d'Artémidore, tel qu'on peut les percevoir à travers ce qu'on dit de Strabon et Marcianus, et il avait une grande connaissance du manuscrit ancien, et à travers le manuscrit du Codex remonté vers les papyrus de l'Antiquité, et en même temps aussi, il avait une capacité de dessinateur, il avait été élève d'un élève de David. Donc tout ça faisait beaucoup d'éléments qui pouvaient lui donner un rôle dans la production du papyrus d'Artémidore. Il avait aussi multiplié des faux, comme par exemple un faux évangile de Matthieu ou une histoire d'Égypte du roi Uranus. Et un cas que je crois presque unique, pour montrer d'ailleurs, c'est un thème à la Grafton, c'est-à-dire le thème de la, comment dire, de, à travers le faux, de montrer une capacité, une ostentation d'une compétence. Dans le cas d'un codex biblique qui s'appelle le Codex Sinaiticus, et qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme authentique, il l'a revendiqué comme si c'était un faux qu'il avait fait. C'est-à-dire, ici, c'était aussi une situation inversée, c'est-à-dire le faussaire qui revendique un manuscrit authentique comme étant le produit de son génie. Et donc, c'était, il y a donc une série de d'éléments qui convergeaient pour faire que le Artemidore soit en fait Simonides. Et plus récemment, ce qui me semble a laissé un peu muet les défenseurs de l'authenticité, c'est le fait qu'entrant dans l'analyse du texte et l'analyse des figures qui se trouvent sur ce papyrus, Canfora a mobilisé tout un ensemble d'étudiants et de collaborateurs dans cette recherche, c'était de montrer d'une part que pour le texte, qui est un texte qui est une sorte de défense de la géographie, qui paraissait aussi un texte assez original par rapport au monde grec. En fait, il s'agissait d'une traduction en grec d'une géographie allemande, géographie générale comparée de Ritter de 1836, et qui avait été là utilisée dans sa traduction française. Et du coup, ça permettait de dire que Artemidore était en quelque sorte un précurseur de la géographie allemande en lisant le texte, puisque il était en fait le texte est une traduction très littérale, très très proche en grec de cette géographie allemande. Et la même opération, désastreuse pour l'authenticité du papyrus, a été faite sur les images, et en particulier les mains, les têtes et les pieds qu'on trouve sur le recto, et qui étaient tous présents dans un manuel du XVIIIe siècle, de 1740, de Jombert, qui donnait comme exemple à imiter ces modèles. Donc, du coup, il y avait là le lien possible entre l'attribution à Simonides et la preuve décisive de l'inauthenticité, sinon du matériel, qui lui était authentique, mais du texte et de la carte et des figures du manuscrit. Restait là une autre question, et qui avait été peut-être aussi à l'origine des doutes de Canfora, c'est le fait qu'on n'avait pas de documentation précise sur l'origine du papyrus, qui était donné finalement comme un papyrus qui aurait été utilisé comme un conglomérat destiné a bouché un trou et qu'on aurait retrouvé dans une nécropole d'Égypte. Mais cette origine paraissait tout à fait bizarre. Aussi, le fait qu'il n'y avait pas d'attestation sur la provenance du papyrus, sinon cette sorte de mythe d'un papyrus qui aurait été redécouvert parce qu'il avait été conservé, parce qu'il avait une fonction pratique, et ensuite redéployé pour donner à lire le texte d'Artemidore et de voir la carte de l'Hispanie qu'il avait tracée, était aussi une indication. À un moment donné, une photo est apparue qui montrait l'état du papyrus avant son déploiement, et comme ce convolute, ce conglomérat qui y était servi, et des élèves ou des collaborateurs de Canfora ont montré que cette photo était aussi un montage et qu'il était impossible d'en avoir l'original. Alors, tout ça, finalement, a convergé, me semble-t-il, parce que je n'ai pas lu récemment de défense de l'authenticité du papyrus. Certains dans les colloques pensent que peut-être c'est beaucoup de bruit pour rien et que toute cette controverse n'a pas beaucoup de sens, mais effectivement, elle a un sens à la fois pour les responsabilités des institutions et elle a un sens aussi par rapport à une réflexion sur les techniques du faux. Et donc, du coup, on retrouve toute une longue tradition qui commence avec Lorenzo Vallard, on peut le poursuivre avec le commentaire qu'a fait Carlo Ginzburg de la fausse donation de Constantin, et pour arriver à tous ces travaux, les plus connus sont ceux d'Anthony Grafton, mais ce n'est pas les seuls, sur les faux dès la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, dans le livre de Grafton, Faussaire et Critique, qui a été publié aux Belles Lettres, mais aussi, par exemple, dans un livre de Carlo Baroja sur les falsifications dans l'histoire d'Espagne, qui remonte à des mythes fondateurs qui renvoient tous à des textes falsifiés, avec toujours ce risque du vertige, c'est-à-dire de considérer que tout est faux. Et j'ai vu récemment de polémiques, par exemple sur le premier texte en langue catalane dénoncé comme une falsification, alors que là, il y a une controverse forte, mais évidemment, derrière ces faux, il y a chaque fois un enjeu historique essentiel. La fausse donation de Constantin, c'était l'autorité du pape sur les souverains. Les mythes de l'histoire d'Espagne, c'était la construction d'une histoire qui, en quelque sorte, gommait la période de l'occupation arabe. Ces débats autour de ce premier texte littéraire médiéval catalan, c'est aussi lié au débat sur une autonomie, une identité propre de la Catalogne, et vous avez vu qu'elle pouvait vouloir se traduire en termes politiques. Donc, ce n'est pas des questions anecdotiques. Les faux peuvent avoir cet aspect psychologique, c'est-à-dire cette ostentation d'une compétence par le faussaire, cas extrême avec Simonidis, mais ils ont aussi toujours une fonction liée à des luttes de pouvoir. Et du coup, c'est la conclusion, je vais en rester là, que finalement, le petit livre de Canfora, mais comme toute l'œuvre de Canfora, est une sorte de défense et illustration de la philologie, puisque si on est capable de reconnaître un faux comme tel, c'est parce qu'une activité critique l'a désigné. Un faux qui ne serait pas perçu comme tel n'est pas un faux, mais circule comme un document authentique. Donc, c'est la puissance, finalement, de la philologie, et c'était le thème de Grafton, c'est-à-dire ce jeu permanent entre des exigences toujours plus fortes ou des procédures toujours plus subtiles pour la production des faux, mais puisqu'il s'agit de faux, toujours démentis ou dévoilés ou découvertes par la capacité critique. Et je crois que pour Canfora, s'il s'est investi autant dans cette controverse sur Artemidore, c'était aussi par le fait de ce que je disais, c'est-à-dire une responsabilité éthique ou civique qui venait croiser là directement la discussion érudite. Donc voilà, cette première séminaire partant de ce livre tout à fait passionnant de Canfora, que l'on peut lire aussi en rapport avec nos intérêts pour l'époque moderne, et qui permettait aujourd'hui de donner une sorte de centralité à ces acteurs importants dans la chaîne de transmission des textes, à l'époque du manuscrit ou à l'époque de l'imprimé, que sont les copistes, scribes et amanuensis. Bien, si vous avez des questions, des éclaircissements, des observations, on a un peu de temps pour le faire.
Je voulais juste une précision. Oui. Le copiste, c'est bien celui qui copie. Vous avez dit, il y avait trois rôles. Il copie, il transfère et il transmet.
Oui, là, je disais, je me rappelais de ça. C'était transfert, c'est-à-dire, on parle là des copistes qui transfèrent d'un rouleau à un codex. Transmet. C'est les copistes qui, face à une œuvre, font faire une copie pour un patron, le marché, et qui peuvent introduire des variantes. Et transcrire, c'est le copiste à l'origine, en quelque sorte. C'est le copiste qui peut transcrire sous la dictée de l'auteur, ou qui peut mettre en ordre, dans une copie au propre, des papiers épars, des fragments. Il semblerait que beaucoup de procédés de composition dans l'Antiquité on emploie le mot de fiche, mais évidemment, ce n'était pas des fiches, mais pouvaient être ces textes sur la cire qu'il fallait tout de suite transcrire pour pouvoir récupérer la tablette et réécrire à nouveau, ou bien des fragments un peu épars de papyrus, bref, coupés, des morceaux qui ensuite pouvaient prendre la forme d'un papyrus. Papyrus est ambivalent comme mot, puisque c'est à la fois un matériau qui peut être sous n'importe quel type de format, et puis c'est d'autre part
le rouleau, avec la précaution, c'est que tous les rouleaux ne sont pas sur papyrus, il en est sur parchemin, et que tous les codex ne sont pas sur parchemin, il en est sur papyrus. Donc on a aussi souvent dans les manuels une confusion, on dit les rouleaux de papyrus et les codex ou codices de parchemin. Non, il y a des recoupements. Mais voilà les trois rôles, à mon avis. L'immédiate transcription, la reproduction pour la transmission, et dans le cas des copistes médiévaux, le transfert d'une forme à une autre.
Et puis par rapport au, à Artémidore, il y a des aventures de temps en temps de celui qui conserve le manuscrit qu'il trouve, parce qu'il attend qu'il est au nord, je ne sais pas quoi. Par exemple, pour le codex Tchakos, où il y avait l'évangile de Judas, et la personne qui l'a conservé croyait devoir le mettre au frigidaire quoi, pour qu'il soit mieux conservé. Puis, évidemment, c'est une catastrophe.
De la restitution, oui. Mais là, il ne s'agit pas d'un faux. Il s'agit du... Non, on ne sait pas, enfin bon.
Oui. Non, non, ça a l'air. Mais on a eu un travail fou, parce que celui qui, non pas le copie, mais le conserve, ne sait pas comment le conserver, parce qu'il ne comprend rien. Quoi.
Oui,
il y a une histoire de faux en ce moment qui circule, avec Karen King. Et son, là,
sur quoi?
Sur un évangile de Thomas, qu'elle aurait copié, et puis ça a fait la une des journaux au mois de septembre, au colloque de Coptes.
Ah oui, j'ai vu ça.
Et là, c'est pareil, parce que bon, il semblerait qu'en fait, c'est vraiment un faux.
Alors là, oui, j'ai vu la discussion, parce qu'elle a occupé les journaux dans le monde entier. J'étais au Brésil quand elle a commencé, donc les journaux brésiliens parlaient. Après, le manuscrit, c'est un fragment, hein, c'est un petit fragment qui attribue une femme à Jésus. C'est ça. Oui, oui, c'est tout. Bon. Alors, première discussion, est-ce qu'il s'agit d'un faux ou d'un document authentique ? Il y a quand même des spécialistes qui considèrent que c'est un document authentique. Le problème ensuite, c'est que le document peut être authentique, mais à qui la tradition du christianisme il appartient ? C'est-à-dire, comme les évangiles apocryphes, c'est-à-dire à quelle tradition hétérodoxe ou particulière ce texte appartient. Et donc, du coup, c'est ensuite la deuxième discussion. Elle n'est plus seulement sur l'idée que ce petit fragment serait un faux, mais l'interprétation du fragment. Et à partir de là, entre la question de toutes les des sectes ou des communautés du premier christianisme qui ont développé des perceptions très éloigné de l'orthodoxie, et particulièrement celle-ci d'attribuer une femme à Jésus. Mais c'est effectivement une épouse à Jésus. C'est une question intéressante, puisque à nouveau, on a la discussion sur la matérialité et on a la discussion sur l'interprétation. Et j'ai vu qu'il y avait, oui, un grand... Absolument, sur l'encre, parce que la matérialité, c'est l'encre et le support. Oui.
C'est vraiment que des textes de l'évangile de Thomas qui sont reproduits, sauf ce petit bout.
Oui, parce que là, c'est une collègue, en fait, une professeure de Harvard qui a acquis ce petit fragment de texte et qui n'est d'ailleurs pas nécessairement une spécialiste de copte. Donc, en tous les cas, ce n'est pas une codicologue. Donc, elle n'avait pas les bases, elle est peut-être spécialiste de copte, mais pas de l'analyse matérielle de l'objet. Donc, elle s'en était remise à d'autres. Donc, oui, non, vous avez raison, c'est une activité permanente. Celle-ci, avait attiré beaucoup l'attention. Je crois même que l'Osservatore Romano a pris position sur cette question, peut-être pas sur le faux ou pas le faux, mais sur le fait que ça appartenait pas à la, disons, à l'orthodoxie ou au corpus des évangiles reconnus comme tels. D'autres faux ? Pas de... Bien, écoutez, on peut... Oui, monsieur, merci.
Vous avez parlé de Saint-Augustin et de Dieu. Comment la transmission s'est-elle faite ?
Vous dépassez mes compétences. Je m'appuyais sur un très beau texte de Louis Holtz, c'est-à-dire qui repérait que les divisions de la cité de Dieu en livres pouvaient être assez immédiatement correspondantes à ce qui était le contenu en longueur d'un rouleau. Et donc, il en déduisait cette hypothèse, mais avec beaucoup plus d'arguments subtils et érudits que ce que je résume ici, il en déduisait que l'hypothèse que le copiste... Alors, ce que je ne peux pas vous répondre, c'est quel est le premier manuscrit de la Cité de Dieu, c'est-à-dire le premier moment où il est devenu un codex. Ça, je ne le sais pas. Mais je suppose que c'est dans la... je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, au plus tard, dans le Haut Moyen-Âge et sans doute avant. Il imaginait donc, ou supposait, ou prouvait, que le copiste, qui était face à ses rouleaux, avait redistribué les contenus en leur donnant cette structure de livre dans le livre, c'est-à-dire dans la division. Mais il faudrait aller vers une édition scientifique de la Cité de Dieu et vous auriez la réponse, c'est-à-dire quel est le premier texte que l'on a de la Cité de Dieu, puisque ce serait dans ce moment que cette structuration de l'œuvre en livre apparaîtrait pour la première fois et en quelque sorte incorporant une matérialité disparue, c'est-à-dire la cité de Dieu dispersée entre plusieurs rouleaux, à l'intérieur d'une nouvelle matérialité qui la réunit à l'intérieur d'un seul codex. Si vous voulez, on pourra regarder pour une prochaine séance quel est le premier état manuscrit connu du texte d'Augustin. Mais de toute façon, on est dans le... Parce que, comme je le disais, là, le moment où... il y a plusieurs moments, mais la transmission a pu se faire à travers le monde byzantin. Elle a pu se faire, autre controverse pour certains textes, à partir des traductions arabes. Et elle s'est fait massivement dans le monde des scriptoria monastiques à partir des 5e, 6e siècle jusqu'à 10e, 11e, 12e. Et c'est dans ces trois mondes que l'on a, finalement, le monde de l'Antiquité. Et si personne n'avait copié, le corpus des textes antiques serait assez réduit, puisque ce seraient les fragments de papyrus que l'on a retrouvés à Herculanum, à Pompéi, et parfois de manière plus hasardeuse ailleurs. Donc, presque rien. C'est donc notre connaissance de l'Antiquité, je dis notre depuis la Renaissance, notre connaissance de l'Antiquité est directement dépendante de ces moments de du transfert du papyrus au parchemin, mais plus encore du rouleau au codex. Bien, écoutez, alors donc à la semaine prochaine.